Voilà. Alors. Donc après quelques semaines d'interruption, on est maintenant début de l'année 2015, on revient ce matin donc sur notre lettre aux Hébreux, et plus particulièrement donc au chapitre 10, que nous allons lire dans un instant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de lire aujourd'hui ou hier. Je rappelle donc évidemment donc tous les enregistrements des précédents enseignements, notamment sur la lettre aux Hébreux, sont disponibles. Là, j'en ai quelques-uns, mais il y en a d'autres. Alors, je ne vais pas reprendre en détail tous les éléments que nous avons déjà étudiés en introduction dans les premiers chapitres, mais il est impératif de bien avoir à l'esprit le contexte, le profil de l'auteur, comme d'ailleurs des destinataires de cette lettre, et ils sont, je dirais, en quelque sorte, une clé de lecture pour comprendre véritablement l'intention de l'auteur dans ses propos. Alors, permettez-moi quand même un bref rappel du contexte de notre lettre et de son auteur, notamment peut-être pour ceux qui prendraient le train en route. Toujours utile d'avoir quelques éléments, mais je serai assez bref là-dessus. Donc, la lettre témoigne de la compréhension du salut en Yeshua à une époque par des hommes qui, comme nous, n'ont pas été les premiers témoins. Ou les témoins premiers plutôt de la vie de Yeshua. Ils n'ont pas côtoyé Yeshua, mais ils en ont entendu parler. Et l'auteur est sans doute un érudit juif qui maîtrise parfaitement la langue grecque. Vous savez que d'ailleurs cette lettre aux Hébreux est le texte du Nouveau Testament qui est dans le grec le plus littéraire, le plus parfait, on peut dire, de toute cette série de livres. Et non seulement il maîtrise parfaitement le grec, mais aussi certainement le judaïsme avec tous ses rituels. Et il fera usage d'ailleurs de nombreuses références vétérotestamentaires et d'allusions à des pratiques juives connues de ses lecteurs. Évidemment, les destinataires de la lettre sont très certainement des juifs qui connaissent parfaitement la loi et les prophètes et qui ont cru en Yeshua par la prédication de l'évangile qui leur a été annoncé, mais qui sont certainement, d'une certaine façon, en tension, subissant des persécutions et peut-être tenté par un repli sur soi, voire peut-être même par une certaine apostasie. Et c'est donc à la fois un avertissement et un encouragement que souhaite adresser l'auteur à des hommes et des femmes qui seraient tentés de renoncer à leur foi sous la pression extérieure de persécutions diverses. Et nous sommes d'ailleurs peut-être, et bon, on l'a évoqué déjà tout à l'heure avec les attentats de ce début d'année, d'une certaine façon confrontés en certains pays aussi, pas seulement chez nous en France, à une tension qui pourrait être assez semblable. Et finalement, un repli sur soi, peut-être même à renoncer à notre foi à cause des pressions qui peuvent être les nôtres. L'exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux est donc, à mon sens, non seulement très pertinente pour ses contemporains, mais aussi peut-être d'une étonnante, en tout cas, actualité pour nous. C'est pas moi. Voilà. Dans ce chapitre 10, nous restons dans la rhétorique habituelle de l'auteur qui développe ses arguments autour de dualité et d'opposition qui nous sont à présent, on peut dire, assez familières. On a parlé de l'ancien et du nouveau, de l'ombre et de la réalité, ou du véritable, le parfait et l'imparfait. On avait, vous savez, dans ces chapitres, ces oppositions entre ces termes et cet éclairage qui nous montre une chose et son contraire. On parlait aussi de la première et de la seconde, etc., etc. Nous revenons également à la comparaison. D'ailleurs, dans ce chapitre 10, encore entre le tabernacle sur la terre et son modèle dans le ciel, les sacrifices répétés annuellement et le sacrifice unique et parfait de Yeshua, mis l'un en face de l'autre, ce sacrifice unique de Yeshua qui est présenté une fois pour toutes, il n'y a pas à le répéter. Pour l'essentiel, l'auteur enfonce en quelque sorte le clou qu'il a déjà planté dans les chapitres qui précèdent. Mais il termine toutefois son développement avec l'importance de la volonté manifestée du testateur pour valider la sanctification devant le Seigneur. Une notion assez délicate qu'il explique par des citations multiples de la Torah et des prophètes. Mais on va y revenir. Commencent alors aussi les premières exhortations pratiques que l'auteur de la lettre aux Hébreux adresse à ses destinataires. Et ces exhortations brossent un peu en filigrane un tableau bien sombre du contexte partagé par ces Juifs messianiques qui vivaient probablement quelque part au nord de l'Égypte. L'exhortation est aussi nourrie alternativement d'encouragement et d'avertissement, rappelant concrètement les exemples du passé des prophètes et des hommes qui ont su rester fidèles par-delà l'épreuve ou la mort qui les attendait. La vie des croyants fidèles n'est pas une vie toujours faite de réussite, de prospérité, de bonne santé ou de liberté, loin de là. Et les exemples cités sont au contraire d'abord ceux des Israélites qui, dans l'histoire, sont morts sans avoir vu de leur vivant la réalisation de l'espérance qui était la leur. Les derniers chapitres de la lettre, puisqu'on arrive quand même doucement vers la fin, on est au chapitre 10, il y en a 13 chapitres en tout. Donc les derniers chapitres de la lettre vont parachever l'exhortation de notre auteur pour faire en sorte que les lecteurs restent fermes jusqu'au bout, même s'ils doivent affronter la persécution ou la mort. Alors on va lire à présent l'ensemble de ce chapitre 10 qui fait 39 versets, un peu long, mais qui nous permet un peu de resituer, surtout si vous ne l'avez pas lu, l'ensemble de notre propos ce matin. Donc, Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 1. « En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés ? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le Messie, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi », il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Vous voyez encore toujours cette dualité, parle première de seconde, etc. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua, le Messie, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Yeshua une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors les 39 versets de ce long chapitre sont très denses et présentent parfois des difficultés que nous allons essayer d'aborder pas à pas. Qui plus est, je l'ai lu dans la version Second 1910, qui n'est pas forcément la plus aisé à saisir, à comprendre, des longues phrases qui n'en finissent plus. Et on ne sait plus, quand on arrive à la fin d'une phrase, qu'il y avait au début. Mais bon, c'est intéressant et c'est important d'essayer de cheminer dans ce que l'auteur de cette lettre veut nous dire ce matin. Le verset 1 s'articule avec, en fait, les derniers versets du chapitre précédent que je rappelle ici pour mémoire. Je vais juste lire donc au chapitre 9, versets 27 et 28, puisque il y a une conjonction de coordination qui suit avec le chapitre qui suit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, souvenez-vous, c'est un passage clé qui montre bien qu'il n'y a pas de théorie de réincarnation quelconque qui existe quelque part, mais bien un jugement qui intervient après la mort. Et de même, le Messie, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a cette attente de ce retour du Messie pour, cette fois-ci, le salut. Et là, nous enchaînons. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et dont l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. L'auteur reprend sans s'y attarder ce qu'il considère sans doute comme acquis par ses lecteurs. Le terrestre demeure une image partielle des réalités célestes. Sauf qu'ici, il n'est pas question du modèle dans le ciel et de son reflet sur la terre, mais des biens à venir. Ici-bas, considérés comme moindres par rapport à ce qui est attendu lors de l'avènement du Seigneur, lors de son retour. Il indique par là que ce que le bénéfice possiblement recevable sur la terre n'est rien en comparaison de ce qui est encore à venir dans le ciel, acquis ou en devenir. On retrouve par ailleurs les dualités des chapitres précédents. L'efficacité du sacrifice unique du Messie fait face à la faiblesse de la répétition des sacrifices dans le tabernacle ou plus tard dans le temple. L'auteur emploie des termes tranchés. Il ne peut jamais, j'ai utilisé le mot jamais, Ou encore plus loin, au verset 4, il est impossible que le sang des taureaux. Impossible. Il n'y a ni nuance, ni possibilité de revenir en arrière dans les propos de l'auteur. Le sacrifice unique du Messie est assurément supérieur et suffisant, à l'inverse de la répétition annuelle des sacrifices. Probablement ici une allusion peut-être au sacrifice de Kippour. Effectivement, les sacrifices à Kippour étaient donc répétés chaque année, justement pour le pardon des péchés. Mais pour l'auteur, la répétition est le témoignage, en quelque sorte, d'une imperfection marquée par une conscience qui n'est pas purifiée au moyen du sang des boucs ou des taureaux. Et dans sa rhétorique mishnique, vous savez que l'auteur ici parle, pose des questions, il fait les réponses, il a une manière de s'exprimer qui peut paraître un peu déroutante quelquefois, mais qui est de ce qu'on appelle une rhétorique présente dans le Talmud, notamment dans la Mishnah. Donc dans sa rhétorique mishnique, il pose lui-même la question à ses lecteurs en enchaînant avec la réponse évidente qui résulte de son argumentation dans les chapitres précédents. Au verset 2, « Autrement, n'aurait-on pas cessé ?» Donc il pose la question, hein, « Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ?» Parlant des sacrifices, « Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. » Mais, il y a un mais, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Au verset 2, la question sous-entend une réalité que vivaient tous les Israélites en allant au tabernacle. Le sang des animaux versé au-delà du voile, et notamment lors de Kippour, ne pouvait purifier sur le plan de la conscience celui qui s'approchait de Dieu. Chacun conservait la conscience de son péché. C'est pourquoi les mêmes sacrifices étaient répétés chaque année. Cela ne signifie pas qu'il y ait eu un manque de sincérité de la part des Israélites en s'approchant de Dieu avec leur offrande. Non, l'obéissance aux directives de Dieu était absolument nécessaire et le Seigneur n'entraînait pas les Israélites dans des rites inutiles. Le sang des taureaux et des boucs n'était en fait une fois de plus que l'ombre d'une réalité autrement plus parfaite, celle d'un sacrifice unique, celui du Mashiach, qui volontairement se donne pour notre purification. La répétition des sacrifices est symbole des limites du rituel, qui rappelle la condition de l'homme devant Dieu et la nécessité d'un sacrifice d'une plus grande excellence. Les rabbanim avaient bien compris d'ailleurs que l'économie lévitique, toute celle qui consiste à offrir une multitude de sacrifices et de les répéter régulièrement, n'était qu'une étape vers une perfection qui ne viendrait pas d'eux-mêmes, mais de Dieu lui-même. Verset 5. C'est pourquoi le Messie, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua, le Messie, une fois pour toutes. L'auteur poursuit donc son argumentation en citant ici le psaume 40. Considéré comme messianique par d'ailleurs la plupart des commentateurs juifs. Le verset 7 du psaume 40 dit ceci, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu me demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Souvenez-vous, c'est aussi cette citation que l'on retrouve dans la parole de Yeshua, lorsqu'il se trouve à la synagogue, il cite ce passage qui est une haftara, donc un passage des prophètes qui est lu le Shabbat. Il y est question ici donc de la volonté du Messie opposée à la démarche humaine d'offrir des sacrifices d'animaux. Or, l'auteur indique que l'accomplissement de la volonté, ici mentionnée, prime sur toute la démarche du Lévitique, qui consistait à offrir des sacrifices et des offrandes pour le péché. En d'autres termes, c'est par la volonté du Messie, s'offrant lui-même en sacrifice pour le péché, que nous sommes véritablement sanctifiés. Le sang des boucs et des taureaux était sous ce rapport non seulement d'une valeur moindre, mais aussi contraire à la volonté du Seigneur pour purifier les consciences. En quoi les sacrifices d'animaux étaient-ils alors nécessaires et à répéter continuellement? Il rappelait aux Israélites leur condition de pécheurs et la nécessité qu'intervienne celui qui, par sa volonté propre, pouvait seul purifier véritablement la conscience de celui qui s'approche de Dieu. Seule l'offrande volontaire du Messie Yeshua, ce une fois pour toutes, pouvait accomplir notre purification dans tous les sens du terme. L'auteur de notre lettre l'explicite de manière parfaite au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Notons au passage que le verbe en grec dans ce verset 14, traduit par « qui sont sanctifiés », est une forme passive qui induit un processus continu de sanctification, plus en réalité qu'une réalité achevée. Mais on va reprendre au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, parlant du Messie, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Les sacrifices offerts par les sacrificateurs ne peuvent jamais ôter les péchés, dit notre auteur. Notre rabbin, ici, n'y va pas par quatre chemins. On peut dire, hein. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui ôte véritablement les péchés. C'est celui offert une fois pour toutes par le Mashiach, qui seul accomplit la purification au regard de la conscience. À présent, il est assis à la droite de Dieu, un statut d'ailleurs à l'égal de Dieu. Être assis à la droite de Dieu, c'est être Dieu, dans l'attente que ses ennemis soient jugés, ce qui signifie que l'ennemi reste certes encore à ce jour avec un certain pouvoir, mais il est cité, bien entendu, dans le psaume messianique du psaume 110, verset 1. Où on parle effectivement d'être du Messie assis à la droite du Père, à la droite de Dieu. Poursuivons et terminons cette première partie du chapitre avant les exhortations. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Intéressant de voir ici mentionner cette indication. Or, là où il n'y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'auteur reprend l'énoncé du prophète Jérémie, ici du chapitre 31 de Jérémie, qui est bien connu, pour souligner le lien entre le rappel du péché, qui est celui de l'économie lévitique, avec pour conséquence l'imperfectibilité des offrandes, et à l'inverse, Dieu qui affirme ne pas se souvenir des péchés, traduisant la perfection de l'Alliance nouvelle par un seul et unique sacrifice. Ceci étant, l'accent est mis dans un premier temps sur l'œuvre intérieure de Dieu qui place en quelque sorte les lois à l'intérieur des cœurs ou du cœur, un processus invisible évidemment, à l'opposé de ce qui est visible dans les actions de tous les sacrificateurs. Dans un second temps, en conséquence de l'œuvre de Dieu, les péchés sont effectivement pleinement pardonnés. Poursuivons, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Yeshua une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors nous passons là à présent à une autre étape du développement de l'auteur, qui peut être moins théologique, quoique. L'auteur va successivement exhorter ses lecteurs, tout en s'y impliquant lui-même d'ailleurs, puisqu'il dit nous, hein, approchons-nous, dans trois directions différentes. Trois directions qui cependant restent complémentaires. Cette longue phrase est cependant relativement complexe, hein, de ce que nous venons de lire, versets 19 à 22. Les versets 19 et 20 constituent un premier groupe d'arguments pour motiver les lecteurs à s'approcher de Dieu. Le lien et l'articulation que fait l'auteur avec l'œuvre de Yeshua est assez évidente, mais suscite quelques questions textuelles. Yeshua a inauguré pour nous le chemin par lequel il nous ouvre l'accès au lieu très saint. Yeshua est ainsi le chemin. Une thématique d'ailleurs que l'on retrouve dans Jean chapitre 14, verset 6, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous connaissez ce passage. Et ce, en liaison d'ailleurs avec le tabernacle. Plus problématique est la seconde allusion avec le voile. Ici, clairement, de par le contexte, on peut comprendre le voile comme naturellement celui du temple. Ce voile qui sera déchiré au moment de la mort de Yeshua. Je viens d'ouvrir. Merci. Au revoir. Mais, curieusement, dans notre texte de l'Épître aux Hébreux, l'auteur n'établit pas ce lien entre le voile déchiré que l'on retrouve dans l'Évangile, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le Talmud, hein, c'est mentionné aussi à cet endroit-là. Mais ici, l'auteur n'établit pas ce lien qui pourtant peut apparaître assez naturel. D'autant plus qu'il évoque le voile comme étant une image de la chair du Messie. De quoi s'agit-il, cette chair du Messie ? S'agit-il de l'humanité de Yeshua, qu'il faudrait alors comprendre comme un obstacle à l'accès au lieu très saint, puisqu'ici nous sommes dans le voile se trouvait dans le temple ou dans le tabernacle, et séparer le lieu saint du lieu très saint, ici il n'y a pas trop contestation sur ce sujet. Donc en quoi cette allusion au voile serait finalement un obstacle entre le lieu saint et le lieu très saint, et donc un accès pour l'adorateur de Dieu? Ou alors s'agit-il d'autre chose? Et je pense qu'il est relativement difficile de répondre sans rencontrer de nombreuses difficultés pour essayer de comprendre la nature de ce voile. Je pense toutefois que l'on peut comprendre le voile en tant qu'obstacle, comme pouvant être le Messie dans son humanité, mais une humanité qui a dû souffrir et lutter pour aboutir à livrer lui-même son corps en sacrifice et donner sa vie, aboutissant par là à déchirer en quelque sorte le voile symbolique du temple. L'obstacle est alors peut-être davantage l'épreuve ou la souffrance du Messie, vécue comme une résistance en quelque sorte à l'accès du pécheur pardonné. Au verset 22, l'auteur s'invite avec ses lecteurs à s'approcher de Dieu. Il était son exhortation par un second groupe d'arguments complémentaires qui ne sont pas forcément évidents à cerner de manière précise. La version seconde a un cœur sincère. D'autres ont un cœur purifié de toute mauvaise conscience. La forme verbale en grec sous-entend un état permanent, un statut acquis qui, situé dans le contexte du premier groupe d'arguments, est lié directement à l'action purificatrice du sang de Yeshua. L'adjectif purifié a ici une connotation identique à celle des ablutions rituelles. Excusez-moi. Je sais pas qui c'est. Tu veux bien vérifier en bas si personne n'attend ? Si quelqu'un sonne, m'appelle. Je sais pas. Alors, il est ensuite évoqué le corps lavé d'une eau pure. Nous voilà avec une curieuse expression qui dénote d'ailleurs dans le contexte de notre lettre. Certains ont cru voir dans cette expression de corps lavé d'une eau pure une allusion toute naturelle au baptême d'eau. Et il est vrai que la formulation pourrait tendre naturellement en ce sens, mais en fait, selon les commentateurs, rien n'est moins sûr que cette lecture-là. En effet, Pierre, l'apôtre Pierre, dans sa lettre, semble minimiser l'importance de l'eau en rappelant la figure du baptême comme une image, finalement, d'une réalité intérieure. 1 Pierre 3:21 nous dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Tiens, on revient à cette notion de bonne conscience, mais reliée à la notion de purification par l'eau. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yeshua le Messie, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Par ailleurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux est plus explicite quand il évoque en Hébreux 6, 2 aussi les baptêmes. Il parle des baptêmes au pluriel, mais sans entrer dans les détails. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà évoqué dans Hébreux 6, 2, mais même l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'entre pas dans les détails et ne semble pas vouloir approfondir cette question du baptême. Alors on voit mal comment ici il le mettrait davantage en avant. À moins que, peut-être ici, dans notre passage, l'auteur évoque l'eau lustrale, une eau de purification dont il parle déjà en Hébreux 9, versets 12 et 13. Décidément. Okay. Hébreux 9, 12 et 13. « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Messie qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» À la place ici, si vous voulez, hein. Pas de problème. Donc ici, non seulement on parle du sang des boucs et des taureaux, ce qui semble assez évident, ce qui est assez connu, mais également éventuellement de ce qu'on appelle la cendre d'une vache, c'est celle de la vache rousse, si vous vous souvenez de ce récit assez énigmatique dans la Torah, de cette vache rousse et de cette cendre, les cendres de cette vache rousse qui, mélangées avec de l'eau, étaient aussi de nature à purifier de la même façon que le sang. C'est que dans notre contexte, en tout cas, et dans l'esprit des arguments développés en premier dans la phrase « le corps lavé », ce qui peut surprendre, sonne ici comme à contre-pied de la conscience purifiée. Est-ce que le corps lavé peut avoir un rapport avec la conscience purifiée, dont l'auteur ne cesse de nous marteler ses arguments depuis le début ? Or, le corps purifié n'est en définitive que le reflet d'une réalité intérieure manifeste. Les sacrificateurs qui allaient dans le temple ou le tabernacle devaient se laver soigneusement le corps en témoignage de leur conscience purifiée. S'écarter de cette ordonnance les exposait même à la mort. Vous savez donc, les sacrificateurs devaient entrer dans le tabernacle et avant de faire leur office, devaient se laver soigneusement. À quoi ça rimait ? Ce n'était pas une question d'hygiène personnelle, c'était autre chose. C'était l'examen de conscience au moyen de l'eau qui était ici aussi un chemin indispensable pour les sacrificateurs. Ceci étant, c'est le prophète Ézéchiel qui relie visiblement le mieux les deux notions ensemble. Le prophète fait sans doute allusion à l'eau lustrale mentionnée précédemment dans les chapitres 9, mais également donc dans la Torah, en parlant de l'action divine pour purifier les consciences, dans Ézéchiel 36, versets 24 à 28. « Je vous retirerai d'entre les nations, » donc c'est le prophète qui parle, au nom de Dieu, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » formidable promesse pour Israël. Et il poursuit, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, il est évident que, dans ce contexte, la purification au moyen de l'eau relève de Dieu lui-même. C'est Dieu qui purifie. Ce n'est pas une action extérieure, ce n'est même pas un baptême à proprement parler. Non, c'est Dieu qui agit pour la purification au moyen de l'eau, qui ici relève non plus d'une initiative humaine, mais de sa propre initiative. Connecté au premier groupe d'arguments du verset 19, c'est bien le sang de Yeshua qui purifie les consciences une fois pour toutes. Mais ici, dans le contexte du prophète Ézéchiel, c'est bien un travail et une œuvre de Dieu à l'intérieur de l'être humain qui est proposé pour la purification de sa conscience, de son cœur. Et poursuivons au verset 23. Il faut avancer un peu. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà l'auteur développé des impératifs, des exhortations qui se rejoignent. Et ici, nous avons cette seconde exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux à ses lecteurs. Après, approchons-nous. Ici, c'est, pour ainsi dire, retenons fermement ou gardons dans notre version. Si, en premier lieu, l'exhortation était approchons-nous, étape initiale, évidemment, dans laquelle l'auteur s'incluait naturellement, la seconde exhortation est un prolongement naturel à la première qui sous-entend une action persévérante et continue du croyant. Et il s'y ajoute l'idée même de conserver ce qu'il a reçu. La profession de notre espérance n'est pas une série de dogmes ou de croyances, mais l'affirmation de notre espérance reposant exclusivement sur les promesses divines. Et au verset 24, l'auteur va plus loin, il ajoute une troisième exhortation qui porte le croyant vers une action plus altruiste, vers les autres croyants dans la communauté, puisqu'il dit « Veillons les uns sur les autres ». Veillons les uns sur les autres, qui est un encouragement à une réciprocité dans l'incitation à des œuvres bonnes, fruit d'un amour véritable. La traduction d'ailleurs « s'exciter mutuellement » est plutôt bonne. Elle correspond à, effectivement, cette notion en grec. Au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée » résonne un peu comme l'aveu d'une réalité sans doute connue par les lecteurs et un risque majeur, finalement, peut-être, de s'écarter non seulement de l'Assemblée, mais aussi de Dieu lui-même. Or, nous savons que le lion rôde pour se saisir de la brebis qui s'isole, qui vient s'écarter du troupeau, de la brebis malade ou fragile. Le papillonnage des croyants est un phénomène bien connu. Il est le fruit de ceux qui cherchent peut-être davantage à recevoir qu'à donner, qui se refusent à exercer l'amour par des œuvres dignes envers leurs prochains ou même tout simplement envers leurs frères. La fin du verset évoque en perspective à cette action des croyants l'avènement du jour. De quel jour s'agit-il ? Ici, probablement et même pour ainsi dire incontestablement, il s'agit du jour du retour du Seigneur, avec également le jugement qui l'accompagne et tous les événements qui le précèdent. Et cet avènement du jour est un élément de motivation qui doit conduire les lecteurs de la lettre aux Hébreux à plus de dynamisme, plus de promptitude à accomplir pleinement tout ce qui leur est demandé. Et poursuivons, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? C'est à la fois une question que l'auteur pose et une réponse. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La conjonction de coordination « car » ou « en effet », selon les versions que vous avez, permet de relier directement les versets suivants avec l'annonce du jour, comme étant aussi celui du jugement. L'attente du retour du Seigneur est à la fois une espérance pour le croyant, mais une attente terrible du jugement pour ceux qui sont rebelles. C'est le même jour, mais ce n'est pas la même issue. Le ton des phrases qui suivent, évidemment, est nettement plus dur, peut-être difficile même à entendre. L'avertissement est-il pour les lecteurs ou pour d'autres, qui, effectivement, ont peut-être sombré dans l'apostasie totale, dans ce contexte des Juifs messianiques de cette époque? Ici, nous ne sommes pas dans un péché occasionnel, plus ou moins volontaire, mais dans l'attitude de celui qui, ayant connu le message de l'Évangile, en renie l'essence. On a déjà parlé un peu de cela dans ce qu'on aborde le chapitre 6, qui est un texte difficile. Les expressions telles que « celui qui foule aux pieds le Fils de Dieu » ou encore « tenir pour profane le sang de l'Alliance » ainsi que « outrager l'Esprit de la grâce » évoque un éloignement délibéré de la foi et même une rébellion contre Dieu que l'on a de la peine à même à imaginer. La citation ici de Deutéronome 32, versets 35 à 36, souligne que c'est Dieu qui se venge et qui se fera justice. Évidemment, les derniers attentats de ce début d'année montrent bien que certains veulent se venger pour Dieu. Mais en ce qui nous concerne, même si nous sommes outragés, même si Dieu est foulé aux pieds, même si Dieu, le Seigneur Yeshua, est moqué par telle ou telle personne, eh bien, c'est Dieu qui se venge lui-même. C'est Dieu qui jugera et son peuple et ceux qui se rebellent contre lui. L'avertissement est là pour souligner qu'il n'y a pas pire que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et peut-être que le jugement des hommes est au regard de ce qui est dit plus haut, plutôt clément. L'expérience fort possible, sinon probable, de comparaître devant les tribunaux des hommes et être condamné n'est en définitive pas comparable à ce qui peut attendre les apostats devant le tribunal divin. Continuons, verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Alors, la suite de notre passage montre que l'auteur, quoique son avertissement soit plutôt sévère, ne désigne évidemment finalement pas ses lecteurs comme ceux qui ont sombré dans l'apostasie et qui subiront la vengeance divine. L'auteur de notre lettre rappelle comment ses lecteurs, ses frères, après s'être approchés de Dieu, ont résisté à la pression et même persévéré dans l'opposition à la souffrance, gardant la foi et s'associant même aux frères persécutés qui étaient dans la même condition qu'eux. Ils étaient même prêts à être dépouillés en solidarité avec les croyants restés fidèles et persécutés. L'espérance qui était la leur était plus grande et ils se savaient possesseurs de biens véritables, plus permanents que ceux qu'ils avaient peut-être perdus. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. L'exhortation se fait plus pressante. N'abandonnez donc pas votre assurance. La tentation était-elle présente? Sans doute est le risque de chuter tout à fait réel. Mais notre auteur ne lâche rien et il rappelle que cette persévérance dont ont besoin les destinataires de sa lettre comporte une promesse. La grande rémunération dont il est question au verset 35 n'est sans doute pas un dû. Elle est encore une grâce, mais reliée à une assurance ferme du croyant. S'agit-il d'une promesse pour le temps présent? Peut-être, mais plus probablement pour les temps futurs, celui au cours duquel le Seigneur donnera une récompense à ceux qui auront persévéré dans la foi. Versets 37 à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La conclusion de l'auteur mérite que l'on s'y arrête un petit moment. Le verset 37 reprend une brève expression présente dans Ésaïe 26, verset 20, avec ces trois mots, un peu de temps. Le contexte du passage d'Ésaïe est celui d'un cantique qui invite à la patience dans l'attente du jugement divin contre les habitants de la terre. Ceci étant, il serait peut-être un peu audacieux de relier directement la prophétie d'Ésaïe, qui est quand même très brève, avec trois mots, à notre texte, autrement que pour souligner l'imminence, la proximité du retour du Seigneur. Cette notion de « un peu de temps » se trouve présente dans beaucoup de passages néo-testamentaires, et notamment dans Jean 16, verset 16, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père », par exemple. L'expression en tant que telle traduit l'imminence, et même en même temps que la nécessité de demeurer attentif et dans une attente patiente, je dirais même une attente active. Le verset immédiatement après est une citation du passage d'Habacuc, peut-être que vous connaissez bien, Habacuc 2, versets 3 et 4, parce qu'il n'est pas le seul ici à utiliser cette citation. L'apôtre Paul, et je vais en parler encore un peu tout à l'heure, la reprend à son compte à deux reprises au moins. La citation est reprise depuis la version des Septante, que voici, avec toutefois peut-être un petit changement sur la fin du passage que l'on va voir dans un instant. Parce que la vision, donc c'est la Septante là, parce que la vision est encore pour un temps fixée, elle ou il, en fait en grec ici c'est un masculin, elle se lèvera à la fin et pas en vain. S'il tarde, attends-le, car arrivant, il sera là, il ne tardera pas. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, mais le ou mon juste vivra par la foi. Or, quand on reprend la version massorétique, donc en hébreu, il y a une nuance d'importance au verset 4. Et je relis donc maintenant dans la version en hébreu. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Vous voyez quand même une petite nuance, en tout cas en français. Le texte comporte d'abord, évidemment, une vision qui invite à l'attente patiente. Ensuite, il est présenté visiblement deux attitudes opposées. La première est celle de l'orgueilleux ou de l'infidèle, et la seconde est celle, au contraire, du fidèle dont la foi est récompensée par la vie donnée par Dieu. Dans le contexte de la prophétie d'Habacuc, le prophète vit en fait une période difficile. Il est dans le désarroi et sa situation l'amène à désespérer. Mais il est invité à la patience et à la persévérance dans la foi, sans faiblir ou fléchir. Pour mémoire, la Septante est la version grecque de la Bible, traduite par les rabbins au moins 200 ans avant l'avènement d'Yeshua. Mais il y a une petite nuance encore plus marquée dans la version que l'auteur de la lettre aux Hébreux utilise et que Paul n'utilise pas. Il est possible qu'il emploie à ce propos une version de la Septante qui n'est peut-être pas très habituelle, ou alors il l'a accommodée, entre guillemets, à sa sauce. Le personnage au masculin, un libérateur dont l'arrivée tarde, doit faire preuve de persévérance et résister à l'orgueil pour faire triompher sa foi. Il est possible que dans la Septante, on y trouve ici peut-être une inflexion messianique. Ce qui dénote toutefois, c'est l'inversion des deux propositions du verset 4, une inversion qui transforme quelque peu le sens premier de ce dernier verset. Le juste est mentionné en premier, puis celui dont l'attitude est blâmée. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne trouve plus satisfaction en lui. Clairement, le juste n'est plus ici le Messie, mais le croyant dont l'attitude peut suivre deux chemins opposés. L'auteur de la lettre aux Hébreux a visiblement pris cette option pour faire rejoindre le texte cité à son exhortation finale du verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi est au cœur de ce qui assure le salut. Ces lecteurs sont visiblement pas de ceux qui se retirent, mais bien de ceux qui tiennent ferme. À relever aussi que donc Paul emploiera souvent la citation d'Habacuc pour argumenter sa doctrine de la justification par la foi. On retrouve notamment dans Galates 3:11 et Romains 1:17 où cette simple mention « le juste vivra par la foi » est mentionnée ici dans ces deux passages. Mais il ne fera pas toutefois cette inversion de proposition comme le fait ici l'auteur de la lettre aux Hébreux. Alors, il nous faut conclure et il nous faut se rendre à l'évidence que l'auteur de notre lettre est pétri d'une profonde connaissance des Écritures. Il sait argumenter, manier la rhétorique. Il sait aussi alterner avec subtilité l'encouragement et l'avertissement. Et progressivement, nous quittons le terrain du débat théologique qu'on a vu déjà dans pas mal de chapitres pour forger finalement une exhortation à la persévérance. Et il poursuivra avec les modèles de foi des anciens israélites, reliant la dernière citation d'Habacuc, donc finalement à sa sauce, hein, à la foi persévérante de ceux qui sont bel et bien vivants aujourd'hui par-delà leur mort, recevant la récompense promise de la vie avec Dieu. Mais ça, c'est le chapitre 11 que l'on verra une autre fois. Nous recevons la même exhortation à ne pas fléchir devant l'épreuve, à tenir ferme dans la persécution qui se profile. Celui qui tarde viendra à coup sûr, n'en doutons pas. Marchons avec persévérance sur le chemin ouvert par le Seigneur et qui va au-delà du voile dans la présence même de Dieu.